Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans le Florilège des Arts. Nous sommes en direct. Nous sommes dans le studio avec mon invité. Je remercie déjà à la technique. Il y a Arnaud qui est là, je le vois, qui devait être, je crois, pour ligne droite, même si je n'ai pas vu ligne droite. Mais il devait y avoir, je pense, ligne droite. Donc, évidemment, je le remercie pour la réalisation de cette émission, tout comme j'ai pu voir. Alors, je ne sais pas si elle répondra à vos appels, mais en tout cas, elle est présente. Je l'ai vue au secrétariat, Michel, pour si vous avez des questions, des remarques, des observations à poser, n'hésitez surtout pas, puisque, eh bien, elle est présente. Et sinon, l'idéal, de toute façon, vous le savez, et ils me seront bien sûr communiqués. Il s'agit des courriels électroniques, donc n'hésitez pas à nous envoyer un courriel électronique. Ce sera la meilleure solution pour que nous puissions eh bien, échanger avec vous souvent dans la seconde partie après le bobino à 10h30. Mais ce qui veut dire qu'il nous faut les messages, bien sûr, auparavant. Le titre de cette émission, eh bien, il s'agit de l'âme des bouillons parisiens, c'est-à-dire les bouillons. Chartier, Bouillon Chartier, un livre à paraître prochainement, un livre d'un auteur que nous connaissons bien, que nous apprécions particulièrement sur Radio Courtoisie, qui n'est autre que eh bien, Gérard Letailleur. Bonjour mon cher Gérard.
Bonjour Nicolas.
Je n'ai pas fait durer le suspense cette fois-ci en disant qu'il était le que nous avions le vice-président, mais vice-président bien sûr de la République de Montmartre, conseiller au bistrot. Et je ne sais pas si d'ailleurs, Gérard, est-ce que vous avez conservé votre charge de conseiller au bistrot?
Normalement pas, mais enfin ça ne change pas grand-chose en ce qui me concerne, parce que c'est un univers que je connais bien, que je continue de fréquenter et qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, le thème de l'émission d'aujourd'hui va le démontrer.
Le démontre encore. Voilà, vice-président dorénavant. Et donc, personne ne vous a remplacé au bistrot?
Ah non, non, non.
Le bon président de la République de Montmartre n'a plus de conseiller, il ne sait
non,
plus
non.
où aller.
En revanche, dans l'ensemble, à la République de Montmartre, on apprécie véritablement cette ambiance
bistrot.
Très conviviale des bistrots parisiens.
Ouais,
donc, beaucoup pourraient effectivement prendre un peu le relais, mais je m'en occupe toujours un petit peu quand même, avant tout.
Alors, l'histoire insolite des cafés parisiens, c'est votre maître ouvrage aux éditions Perrin, je crois.
Oui, il y a déjà quelques temps.
Voilà, ouais. Vous avez, je crois, eu peut-être le prix Rabelais, entre
le
autres.
Le prix de l'Académie Rabelais,
pour ce
voilà.
Livre.
Oui.
Donc, c'est pas le seul ouvrage que vous avez fait dans ce domaine, puisque il y a aussi le Balzac, chez Balzac.
Chez Balzac, oui, ça c'est une belle aventure aussi qui remonte à quelques années. Je venais de faire une émission à la télévision sur la chaîne Histoire, c'était historiquement chaud. Et le fils Balzac, le fils du boxeur, du fondateur du lieu, donc Jean-Louis Balzac, me voit en train de déjeuner chez lui avec des amis qu'il connaissait très bien, dont l'acteur qui était un ami, qui était fréquemment là, un des plus grands acteurs d'ailleurs, à mon avis, très populaire, puisque je parle de Belmondo, Jean-Paul,
ouais.
Il était là. Et Jean-Louis s'approche de moi et me dit « Toi, t'as bien connu mon père, le boxeur, qui était décédé en 1989. Est-ce que tu accepterais de faire un livre qui retrace l'histoire de la maison, l'histoire de ma famille, etc. ?» J'étais d'origine polonaise. Ben, j'y écoute avec grand plaisir. Sous réserve, je regarde Jean-Paul en riant, qu'on associe à ce projet, bien sûr, Jean-Paul. Et je lui dis, est-ce que tu accepterais, par exemple, d'intervenir en tant que préfacier? Et là, il me regarde, il me tape dans le dos, il me dit, mais oui, mon petit pote, parce qu'il parlait comme ça, très décontracté, c'était un véritable plaisir. Il était avec l'acteur, d'ailleurs, Charles Gérard, qui ne le quittait pas. Et c'est dans cette ambiance très conviviale, très sympathique, que ce livre est né. Et j'en ai profité, d'ailleurs, pour retracer l'histoire du 15e arrondissement, parce que ce lieu se trouve rue Brancion.
Oui.
Et puis, en même temps, l'histoire qui a, depuis l'époque, je veux dire, médiévale jusqu'à nos jours, donc, marqué les
donc
grandes heures.
Donc, ça a été repris il y a 2-3 ans, et alors, je crois, ça marche toujours bien?
Ça marche toujours très bien. C'était repris, effectivement, parce qu'après l'époque du Covid.
Par trois associés, je crois.
Beaucoup, voilà, beaucoup de personnes, beaucoup de bistrotiers parisiens n'ont pas pu continuer.
Ouais, vous m'étonnez.
Et puis, donc, ça a été repris. Et l'ambiance est toujours aussi chaleureuse et la décoration est toujours la même. Il y a beaucoup de photos encadrées qui relatent les grandes heures du lieu et puis qui évoquent aussi toutes les personnalités qui s'y sont succédées. Il y en a eu beaucoup de Bourville, en passant par Gabin, par Michel Audiard aussi, que j'ai eu le bonheur de connaître. Michel a dû, moi je crois en 85, et en 80-82 on se voyait souvent. Un jour, il me dit, c'est mon petit gars, j'avais quand même quelques années de moins, mon petit gars.
Et 40 ans de moins.
Je vais dire une chose dans la vie, il faut être un peu fêlé, ça laisse passer la lumière. Je crois qu'il avait tout à fait raison.
Bon, bah écoutez, très bien.
Toujours, mais enfin.
Donc Balzac, il y a aussi plus proche de nous, si la Bonne Franquette et Montmartre nous étaient comptés.
Voilà, c'est
donc
une institution, la Bonne Franquette.
Donc vous avez compté les histoires finalement des brasseries, restaurants, bistrots de Montmartre jusqu'à la Bonne Franquette.
Jusqu'à la Bonne Franquette, et Dieu sait que cette histoire est passionnante et extraordinaire.
L'histoire du lieu d'ailleurs, qui a vu plusieurs institutions se succéder.
Oui, puis ça a été un des berceaux de l'impressionnisme surtout, c'est-à-dire on y voyait Van Gogh, on y voyait surtout Monet, Manet, Renoir et combien d'autres aussi, Sisley, Sirondet, et tous ces gens se retrouvaient dans une ambiance formidable. Renoir venait y peindre le midi pour faire des croquis, rencontrer des jeunes femmes dont il faisait l'esquisse de certains portraits d'ailleurs, et ensuite il retravaillait ses dessins et il incorporait ses personnages donc dans ses grandes compositions. Et quand il n'avait plus de papier d'ailleurs, il lui arrivait de dessiner sur le mur qui était à côté, ce qui agaçait beaucoup Olivier, le patron du lieu, puisque il allait voir Renoir, il dit non, non, faut pas abîmer mes murs comme ça. Il relavait immédiatement son mur.
Ah bien, ben oui, eh oui.
Mais
eh oui.
Mon Dieu, c'était l'époque. Eh oui. Vous savez, quand Picasso a offert au patron, donc qui s'appelait le père Frédé du Lapin Agile, un tableau, il savait pas quoi en faire, il aimait pas du tout Picasso. Et la femme de Frédé lui a dit « Bon, enfin, écoute, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Il ne faut surtout pas dépenser un centime, même pour l'encadrer, etc. » Donc, ils ont planté un clou, et puis ils ont suspendu le châssis et la toile, comme ça. Voilà. Je crois d'ailleurs que cette œuvre, maintenant, est aux États-Unis et coûte une véritable fortune, mais enfin, peu importe. Fermons la parenthèse. Voilà.
Très bien. Donc, je rappelle ces trois ouvrages qui, sur une quinzaine d'années à peu près, écrits par Gérard Le Tailleur. D'abord, l'histoire insolite des cafés parisiens, édition Perrin. Vous avez chez Balzac, quelles éditions déjà ?
Ça, c'est du Alpha.
Du Alpha, c'est bien
voilà.
Ça. Voilà. Et donc, pour terminer, et ça, c'est une édition qui est, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est écrivain, mais aussi éditeur, avec son épouse Françoise, Gérard. C'est votre maison d'édition, je crois, pour la Bonne Franquette.
Trianon,
voilà.
Ouais.
Si Montmartre et la Bonne Franquette nous étaient comptés aux éditions Trianon. Bien, alors, eh bien, vous continuez, vous rééditez et vous mettez cette fois-ci les pieds, non pas dans le plat, mais dans le bouillon, avec votre dernier livre à paraître prochainement. Sur les bouillons parisiens, vous retracez l'histoire de ces fameux bouillons parisiens, dont ceux qui, selon vous, sont l'âme des bouillons, c'est-à-dire les bouillons de la famille Chartier. Faites-nous une petite introduction, si vous le voulez.
Ah bah avec grand plaisir. Bah, c'est une aventure tout à fait étonnante, d'ailleurs qui prend racine, je serais tenté de vous dire, au XVIIIe siècle, autour d'un personnage étonnant qui s'appelait d'ailleurs Mathurin Rose de Chantoiseau.
Oui.
Le nom a une connotation poétique, vous voyez. Politique peut-être un peu aussi, parce qu'il a révolutionné cet univers. D'abord en créant réellement le premier restaurant. Alors, qui était ce Mathurin Rose ? Ben, c'était un doux rêveur. Sa famille tenait, on appelait ça à l'époque, une boutique de panification, c'est-à-dire une boulangerie. Les locaux étaient assez grands et il a décidé, donc en 1765, pour être précis, de transformer ses locaux en restaurant. C'est lui qui a créé ce concept, c'est-à-dire de faire un restaurant merveilleusement bien décoré, très beau, et y attirer une clientèle désargentée, le plus souvent, donc de proposer des plats très abordable à ce niveau-là, et de jouer un peu sur le renouvellement constant de la clientèle. Je ne vais pas employer ici au micro un mot anglais, mais enfin, on peut le dire, c'est un turnover, comme on dit. Mais je l'ai à peine prononcé.
Ah, donc, on n'a pas écouté, on n'a pas entendu. On s'est bouché les oreilles.
On renouvelait très souvent donc, la clientèle sous cette forme. Et il a attiré chez lui donc, beaucoup de personnes connues, de grands artistes, d'auteurs, dont par exemple Denis Diderot, qui, dans une lettre à son ami Vollard, dit « J'adore cet endroit parce qu'on y va à n'importe quelle heure, on y est bien reçu, n'est pas très cher, etc. » Donc, on a quand même des documents afférents à cela, si afférents. Et donc, il lance son affaire, et son affaire va très très bien tourner d'ailleurs. Il a même des idées un peu révolutionnaires, mais on est dans l'époque du siècle dit des Lumières, il y en avait, mais il n'y en a pas eu autant, tant que ça.
Ouais.
Il y en a eu beaucoup quand même. Et il va même à la cour voir Louis XVI, il lui donne des conseils, bon ça se passe quand même assez mal. Il va même faire un petit séjour à la Bastille, quelques jours, mais enfin c'est pas encore trop grave. Et puis on y retourne à ses fourneaux et à ses casseroles, et là il va exercer son talent. Et il y a aussi quelque chose à noter, c'est que au-dessus de la porte d'entrée de son restaurant, il va placarder un cartouche qui se termine, en latin d'ailleurs, mais le dernier mot c'est restaurabo, c'est-à-dire l'endroit où on peut se restaurer bien entendu, et ce mot restaurabo va donner le mot restaurant. Donc pour la première fois, le restaurant va naître, et il est considéré comme le père véritablement des restaurants parisiens. Et alors, ma référence est la suivante, c'est l'almanach Dauphin, pour être précis, ou tablette royale du vrai mérite des artistes célèbres, dans l'édition de 1777, hein, pour être précis, qui désigne Mathurin Rose comme l'inventeur des restaurants modernes. Mmh. C'est quand même très important, parce qu'ensuite, en 1775, il y aura un autre restaurateur qui s'appellera d'ailleurs Boulanger.
Oui.
Alors il y a une espèce de confusion, on dit non, c'est pas Mathurin, mais si c'est Mathurin, l'approche que je viens de vous la donner...
Mathurin Rose de Chantoiseau.
Avec cet almanach. Alors,
il est lui-même issu d'une famille de boulangers.
Famille de boulangers. Mmh. Et ça marche très très bien, et puis donc dans Paris vont se développer beaucoup de restaurants, dont certains vont suivre cette ligne qui consiste donc à servir des repas pas très chers.
Oui.
Et puis par la suite...
Alors vous avez les fameux... Là, vous allez avoir les fameux Knorr, Liebig.
Alors ça va arriver un petit peu après.
C'est après, la
Révolution passe, et puis les deux frères de Louis XVI donc, vont régner à la mort, enfin au départ tout du moins, là, du second, c'est-à-dire Charles X, en 1830. Vous avez effectivement une véritable révolution à ce niveau-là. Pourquoi ? Je ne vous parle pas des Trois Glorieuses, mais parce qu'en 1832, donc 2 ans après la chute de ce souverain, eh bien, on va voir naître...
De Charles X, bien sûr.
Donc on va malheureusement déjà assister à une épouvantable pandémie à Paris de choléra. Et cette épidémie de choléra va faire... On a du mal à imaginer, parce qu'on parle beaucoup de pandémie en ce moment, parce que vous avez même... sur un bateau de 1300 personnes, un monsieur de 92 ans qui est mort d'une crise cardiaque, soi-disant, bon, à la suite de je ne sais trop quoi. Uh-huh. Mais c'était pas ça les pandémies à l'époque. Hein. Les pandémies, c'est que quand vous relisez les chroniques du temps, vous savez que les gens mouraient rarement chez eux, dans les hôpitaux, excusez-moi, plutôt, donc chez eux. Et lorsque...
Ils mouraient chez eux.
Et oui, et lorsqu'on franchissait les rues, les ruelles de vieux Paris, on entendait des bruits de marteaux, des coups de marteau partout. Parce qu'ils clouaient les cercueils dans les maisons.
Dans les maisons.
Et c'était absolument effrayant, épouvantable. Et donc, les gens tombaient par milliers. Et donc, il fallait quand même se sustenter. Et c'est là où on a considéré le bouillon comme une véritable panacée. Parce que c'était un médicament. Parce que ce bouillon avait des vertus nutritives.
C'est ce qu'on a toujours dit. Ce que les grands-mères disaient encore à leurs petits-enfants il y a quelques dizaines d'années. Oui.
Complètement.
Il fallait prendre du bouillon quand on était malade, alité. Voilà. C'était la seule chose qu'on pouvait prendre.
Et par mitonymie, si vous voulez, le lieu dans lequel on servait ces bouillons va prendre ce nom. On va appeler ça donc des bouillons. Alors effectivement, vous parliez des...
C'était pour les convalescents.
Des chimistes. Alors, les premiers chimistes qui ont œuvré dans cet esprit-là à Paris, furent des Hollandais ils vont créer la Compagnie des Bouillons Hollandais, donc juste dans ces années 32-35. Et cette compagnie, elle va avoir un succès fou, puisqu'elle va passer des contrats avec les hôpitaux de Paris, notamment, parce qu'il faut, pouvoir nourrir tous ces gens qui souffrent de cette épouvantable épidémie. Et ils vont avoir jusqu'à 40 restaurants dans Paris, où ils vont servir des restaurants. Mais ce sont des chimistes. L'un s'appelle Bouvins, l'autre de Coppenzahl. Et ces deux chimistes donc vont créer cette chaîne qui va très très bien marcher. Des auteurs de
l'époque.
Alors
des chimistes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils apportent
C'est-à-dire qu'ils créent sur un plan industriel le fameux bouillon.
D'accord.
Donc, faut dire que c'est la plus vieille recette d'ailleurs.
C'est pas encore le potage déshydraté des Knorr, Liebig,
Maggi. Ah non,
Maggi.
Ça va intervenir
après.
Un petit peu après.
J'insiste.
Hein, voilà, ça va intervenir un petit peu après. Non, au contraire, eux, ils se basent sur l'une des plus vieilles recettes du viandier, qui est un traité de cuisine du XIIe siècle.
Ouais.
Quand même pas rien. Qu'on a retrouvé d'ailleurs sur papier parcheminé bien après, et qui donne la recette, en fait, c'est ce qu'on appelle le pot-au-feu, quoi, ni plus ni moins, quoi, et puis qu'encore Henri IV reprendra avec sa fameuse poule au pot par la suite. Il fallait nourrir les gens, donc c'était un grand bouillon avec une pièce de viande et puis des légumes. Donc en fait, c'est tout simple, et ça va très très bien marcher. Ils vont vendre des bouillons comme ça jusqu'à 20 centimes la tasse. Devant leur restaurant, et certains auteurs, dont un qui avait un tirage prodigieux, qui est complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelait Paul de Kock, qui a écrit beaucoup de nouvelles, de romans, de chansons. On lui doit notamment Madame Arthur à Montmartre, c'est pas rien. Donc cet homme va vanter dans une de ses nouvelles les fameux bouillons hollandais. Et puis ils vont disparaître, ces bouillons, vers 1840 à peu près, 40-45. Et c'est à ce moment-là que va intervenir, l'homme qui va créer la plus fantastique chaîne de restaurants dans cet esprit-là. C'est un boucher.
Ouais.
Il s'appelle Duval.
Alors, Pierre-Louis Duval.
Pierre-Louis Duval. Alors Pierre-Louis Duval, c'est un personnage étonnant. Il vend la meilleure viande de Paris. Il est rue Coquillière, donc dans le quartier des Halles. Et cette viande, elle est tellement prisée que Napoléon III, par la suite, le nommera fournisseur officiel quand même de la cour. Et il gagne donc énormément d'argent. Non seulement il a sa boucherie, mais en plus, il va en diriger indirectement une quinzaine dans Paris. Ces boucheries sont franchisées, en fait. Bon, c'est lui qui lance d'ailleurs ce système de franchise. Et ça marche très bien seulement. C'est non seulement un bon boucher, mais c'est aussi, j'allais dire, un boutiquier très adroit. Et tout en étant très content d'un côté, il se pose des questions parce qu'il perd dans son esprit beaucoup d'argent avec les bas morceaux. Parce qu'en fait, il ne vend que des bons morceaux. Et les bas morceaux, il se dit, il faut quand même que je fasse quelque chose avec. Alors, il va créer un premier restaurant.
J'ai des filières, une filière.
Le premier restaurant, le Bouillon Duval, son premier qui sera, je crois, rue de la Monnaie, pas très loin toujours du quartier des Halles, bien sûr. Et ça va marcher terriblement, parce que si on se replace dans le contexte de l'époque...
Donc c'est du bouillon de bœuf.
Oui, c'est du bouillon de bœuf.
C'est le pot-au-feu.
Mais il y a toute une clientèle quand même à servir. Alors cette clientèle, bien sûr, c'est celle des Halles. N'oublions pas que c'est l'époque, par exemple...
Ouais, les ouvriers des Halles de Paris.
Et puis Napoléon III qui lance ce chantier énorme. Déjà au départ,
absolument.
Ce sont les pavillons Baltard. Et les pavillons Baltard, il faut les construire. Donc ça amène tout un flot déjà d'ouvriers. Et ces gens-là cherchent à se nourrir pour pas très cher. Donc ce premier restaurant est le bienvenu. Devant le succès, il va en ouvrir un autre énorme. Là, il reprend un ancien magasin qu'il transforme avec un étage, notamment rue de Montesquieu. C'est la salle Montesquieu, là où il peut servir jusqu'à 600 repas. C'est énorme. Et ça va avoir un succès fou. Donc tout ça accompagne bien sûr les changements de régime. Hein, on a eu Napoléon III, avant d'être Napoléon III, président de la Seconde République, notamment. Parce que c'est le moment où, dès qu'il entre en fonction, Louis-Napoléon, il n'a qu'une idée en tête, c'est de refaire Paris. Ce Grand Paris, alors grâce au baron Haussmann d'ailleurs, ça va prendre des proportions folles, puisque dans Paris, on va assister à la démolition de 20 000 immeubles. Il va en construire 30 000. Il va faire construire 67 km de rues, de boulevards pour restructurer tout ce nouveau Paris. Et ça amène, ça attire des milliers d'ouvriers, tout cela. C'est pour ça que tout est lié, en fait. Hein, donc, et tout n'est jamais que
conséquence. Ce sont des bouches à nourrir, et donc on fait...
Et les gens ont de tout petits moyens.
Oui, exactement.
Donc les Bouillons du Val, c'est pour ça que les Bouillons du Val, tenez-vous bien, Nicolas, qui s'arrêteront autour de 1922 avec la mort du fils du Val, Alexandre, représenteront à peu près 250 restaurants dans Paris. C'est tout à fait fou, c'est la plus grande chaîne de restaurants.
250 bouillons.
250 bouillons.
Pierre-Louis Duval, surnommé Godefroy de Bouillon.
Alors ça, ça sera son fils, pardon. C'est le fils Alexandre, d'ailleurs. Alors,
Pierre-Louis Duval.
Alors Pierre-Louis Duval va mourir, lui, en 1870. Et son fils Alexandre va prendre le relais. Et son fils Alexandre, c'est un homme qui aime la vie du tout Paris. C'est-à-dire qu'on le voit chez Maxime, à son bras les plus belles filles du temps. Et sa maîtresse, c'est, on peut la nommer, une demi-mondaine, comme on les appelait à l'époque. Elle s'appelle Cora Perle. Elle va lui coûter beaucoup d'argent, mais il en a énormément, donc c'est pas trop grave. Il va lui acheter un hôtel particulier, il va la garder auprès de lui assez longtemps, mais c'est les poches un peu percées, cette brave corps à perdre, donc il va perdre beaucoup d'argent. Mais enfin, peu importe, parce que ça lui fait en fait de la publicité. Il veut qu'on parle de lui, même en bien, même en mal, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que ça se traduit pour lui par un succès. On va lui attribuer effectivement différents, noms, sobriquets, dont Godefroy des Bouillons. C'est lui, Godefroy des Bouillons. Il est arrivé chez Maxime, tiens voilà, Godefroy des Bouillons. Alors, c'est un personnage qui va même porter un autre surnom, un autre sobriquet. On va l'appeler aussi Petite Marmite. Non pas parce qu'il est un peu rond, pas du tout, non, il est assez grand, élancé, il va même faire du théâtre, il va même chanter, je crois, au Théâtre des Variétés, parce qu'il adore Jacques Offenbach. Et ce personnage, donc, va être surnommé Petite Marmite, parce qu'il va arborer un haut de forme à la mode, qui est beaucoup moins haut que les précédents.
Oui.
Ça s'appelait un Kronstadt, voilà. Et ce Kronstadt, donc, il va le valoriser encore plus eu égard à sa personnalité. Et puis aussi, bon, on le voit aussi, il portait des guêtres blanches. Enfin, il faut imaginer le personnage dans ce contexte des années 1880. Là. Donc, on est bien après, même la chute de Napoléon III.
Oui.
Il va au théâtre. C'est l'époque où Paris vibre à la musique de Jacques Offenbach, avec la Belle Hélène notamment. Alors, c'est un petit peu plus tôt. La Belle Hélène, c'est vers 1867. Donc là, Napoléon III est en plein essor, en pleine gloire. D'ailleurs, il y a une anecdote qui se rattache au Bouillon et à la Belle Hélène. Alors, la Belle Hélène, c'était Hortense Schneider, qui était une femme très connue, une gourmande, une bourgandine, mais aussi une gourmande, parce que Escoffier a créé pour elle un dessert,
ah oui,
la fameuse poire
Belle Hélène.
La poire Belle Hélène. Donc, on l'appelait, elle portait différents surnoms d'ailleurs, elle a même été la maîtresse du vice-roi d'Égypte. C'est pour ça que les écotiers la surnommeront, c'est la seule Calipige, voilà, la seule Vénus Calipige, voilà, le jeu de mots, égard au fait que c'était le vice-roi d'Égypte. Bon, et puis, elle va en avoir d'autres, mais peu importe. Jacques Offenbach l'adore, et sur des livrets d'Alévi et de Mélac, on va voir naître un succès fou, parce que la Belle Hélène, imaginez, vous avez sur scène des personnages qui incarnent des célébrités historiques énormes. Ce sont les personnages de l'Iliade qui sont sur scène. Et vous imaginez Ménélas au deuxième acte qui chante et qui voit arriver Achille. Et il dit, tiens, voilà le bouillant Achille.
Oui.
Le bouillant Achille qui a des yeux. Alors que n'en a pas le bouillon du Val. Parce que les yeux, c'est ces petites, particules graisseuses quand il est pas vraiment à température, qui se forment sur le bouillon, ce qui lui donne un côté quand même assez désagréable quand il est servi.
Ouais.
Donc, Et voilà, vous vous rendez compte, Ménélas et Agamemnon qui parlent du bouillon du Val en plein Paris.
Les Atrides.
Voilà. Ménélas et puis elle aura aussi un succès fou dans la comment dirais-je dans les pièces qu'elle jouera par la suite aussi. Voilà, ça c'est pour. Hein, je referme la parenthèse autour de d'Horton Schneider, mais ça donne une idée du contexte de cette époque. Hein. Mm-hmm. Les gens sortaient beaucoup. Le théâtre des variétés avait donc était un emplacement aussi, c'était les grands boulevards, extrêmement prisés, parce que tout le monde fréquentait les grands boulevards, c'était un lieu de promenade, c'est là où on allait faire des emplettes, et c'est pas sans raison, et là maintenant je vais vous parler de la famille Chartier, parce qu'elle intervient, après, là il va y avoir une concurrence aussi. Alors la concurrence, elle va venir aussi d'Allemagne, parce que vous avez cité d'ailleurs tout à l'heure, Nicolas, d'autres chimistes, Knorr, on les connaît toujours, Knorr.
Mais alors voilà, ils sont toujours connus, que ce soit Liebig, Knorr, Magie. Voilà. Alors Magie. Les cubes Magie.
Alors le Magie cube, d'ailleurs,
ça, c'est du bouillon déshydraté, c'est ça?
Voilà. Alors si vous voulez, celui qui va vraiment révolutionner cela aussi, ouais. Il s'appelait Julius Magie.
Oui, Julius Magie.
Il était de nationalité, comment dirais-je?
Le fameux cube Magie.
Cube Magie, voilà. C'était un Suisse.
Ils ont entendu qu'il serait un espion à la solde de l'Allemagne.
Voilà, alors là, c'était un Suisse d'origine italienne, Julius Magie. Et quand son père meurt, il va lui laisser... Son père était un grand minotier. Hein. Il va lui laisser un moulin formidable au moment où la minoterie est en crise terrible là-bas. Il commence à perdre beaucoup d'argent. Alors, bluter la farine, bon, certes, ça rapportait plus d'argent momentanément. Mmh. Donc, il s'est mis à bluter des légumes secs. Et avec ses légumes secs, il a lancé les premiers potages déshydratés.
Voilà.
Ça a eu du mal à démarrer, mais son idée maîtresse à ce moment-là, c'est de créer l'arôme Magie,
ouais.
Qui est toujours en vente aujourd'hui.
Moi, je trouve ça extrêmement mauvais. J'ai jamais ouais. aimé que ça le Knorr, toutes ces horreurs. Mais alors, ce qui a été ma surprise en lisant, en me documentant un peu sur le sujet,
c'est-à-dire
de me rendre compte qu'on avait déjà assez... c'est-à-dire... Et que ça vienne d'Allemagne ne m'étonne pas, ils n'ont aucun goût.
Ben, vous savez, l'année de ma naissance, 1947, est l'année où Nestlé a racheté Magie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous les supermarchés, dans toutes les épiceries, vous trouvez le fameux cube dont vous parliez
oui,
à l'instant,
c'est ça.
Le bouillon cube.
Mais c'est pas parce que c'est Nestlé que c'est meilleur. Hein.
Non, bah, pas du tout, non, je ne veux pas faire de publicité autour. Non mais ça explique le fait que c'est toujours, comment dirais-je, proposé dans les épiceries et autres. Voilà.
Ouais.
Donc le succès perdure encore aujourd'hui. Mais le grand, je veux dire, la grande révolution, indépendamment de tout ça, c'est que va arriver sur le marché donc la famille comment dirais-je, la famille Chartier. Alors la famille Chartier.
La famille Chartier, je vous propose une chose parce qu'on est à peu près à la moitié de l'émission.
Je vous en prie.
Bien, c'est de commencer à en parler, mais seulement après un très court bobino.
Je vous en
Ça
prie.
Vous convient? Allez, merci chers auditeurs.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Eh ben dites donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le florilège des arts. Si un jour j'avais su que dans des publicités de Radio Courtoisie, on parlerait podcast, oh, mais ils n'ont pas trouvé à traduire. Moi, je vais mettre à l'amende ceux qui sont à l'origine. Je crois reconnaître la voix, d'ailleurs, de la personne qui fait cette publicité pour les fameux podcasts, Deezer, etc. N'oubliez pas, en effet, et n'oubliez pas, si vous écoutez ces émissions de cette façon, d'y mettre les 5 étoiles, je le rappelle, je le dis aussi, pour d'autres médias. J'en profite parce que je vois qu'il est arrivé, en fait, je n'avais pas compris, au niveau de la technique, de remercier aussi Benoît, parce que Benoît est toujours là. Je croyais qu'en fait Benoît partait et qu'Arnaud arrivait, ça n'a rien à voir. C'est voilà. Donc merci à tous les deux puisqu'ils sont encore là pour la réalisation de cette émission, chers auditeurs. N'hésitez pas à poser vos questions par ailleurs, hein, standard, mais surtout si c'est préférable d'ailleurs, courriel électronique et non pas mail. C'est ce qu'on m'a appris quand je suis arrivé sur Radio Courtoisie. Dis surtout pas mail, ça coûte à se faire foutre dehors. Donc, voilà. Bon, enfin, les temps changent. Après tout, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, ben, écoutez, nous étions donc le titre de cette émission sur les bouillons parisiens. Et parmi ces bouillons parisiens, eh bien, il y a, et c'est un livre à paraître, les bouillons Chartier, venant de ces charrons qui vivaient à Orgeval, dans le 78 aujourd'hui, dirions-nous, dans les Yvelines. Les Chartiers. Donc vous allez nous en parler maintenant que vous avez résumé un petit peu en prologue l'ensemble des premiers bouillons déshydratés, comme aussi et Godefroy de Bouillon, Pierre-Louis Duval, la famille Duval qui justement crée cette première chaîne de restauration de l'histoire avec des restaurations où on pouvait aller jusqu'à servir 600 clients en même temps dans des lieux de presque 1800 mètres carrés. C'est dire. Alors, mon cher Gérard, on continue maintenant dans ce florilège des arts et nous parlons, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, des Chartiers.
Voilà, la famille Chartier va donc intervenir un petit peu plus tard, donc par rapport à ce que je viens de vous raconter. En fait, c'est une famille de charrons au départ. On se succédait, donc on était charrons, j'allais dire, de père en fils à l'époque, dans une France complètement différente, hein, puisque vous aviez les trois quarts des personnes en France qui vivaient, on dirait aujourd'hui, à la campagne, c'est-à-dire des cultivateurs, des éleveurs. Donc les gens bougeaient beaucoup moins, restaient dans leur village. On avait besoin de charrons parce qu'ils réparaient les charrettes et autres, et bien pas que les charrettes non plus. Donc c'était des métiers extrêmement prisés, recherchés, et on y gagnait sa vie d'une manière correcte. Mais les fils de ce fameux charron, le père donc de ceux qui s'illustreront plus tard dans cette restauration, ce type de restauration, n'avait qu'une envie, peu à peu, c'était d'aller à Paris. On rêvait, pourquoi on rêvait de Paris à l'époque? Parce que Napoléon III avait créé, à partir de 1855 d'ailleurs, la première exposition universelle. C'était une révolution prodigieuse. Les 36 pays en 1855 qui ont été représentés, qui avaient des stands un peu partout. Donc le monde entier venait à Paris. Et ensuite, on a vu naître aussi un courant artistique que les Chartiers ont adoré, ce qu'on appelait l'art nouveau. Pour ça que les premiers bouillons seront décorés, ils le sont toujours. Je conseille d'ailleurs aux amis éditeurs d'aller, ne serait-ce même que par curiosité, voir le bouillon qui est rue du Faubourg Montmartre, au 7 rue du Faubourg Montmartre, ou à Montparnasse, même le bouillon Chartier Montparnasse, où vous avez des décorations tout à fait prodigieuses qui émanent des plus grands artistes. Vous savez, c'est l'époque où Guimard faisait les édicules, donc des stations de métro. C'est l'époque de Mucha, de tous ces artistes, et etc. Oui. Donc, on est en pleine révolution culturelle, artistique,
c'est ça.
Puis même, bien sûr, scientifique. La fée électricité va venir. Enfin, donc, tout est lié. Hein. Malheureusement, on n'a qu'une petite heure pour en parler. Donc, on va se consacrer plutôt donc, aux Chartiers maintenant. Alors, ces Chartiers, donc, le premier, c'est le plus jeune d'ailleurs. Qui choisira comme prénom Camille. En fait, c'est pas son prénom, mais il adore se faire appeler Camille. C'est la mode, hein, puisque Alexandre Dumas fils avec la Dame aux Camélias, donc a eu un succès fou. Donc ce prénom Camille, il le prend, il le garde. Et son frère, c'est Frédéric, il est un petit peu plus âgé. Et Camille, il bouge, il va à Andrézy, où il rencontrera sa future épouse, dont la famille tient un restaurant à Andrézy, oui. Important. Et puis donc, Camille arrive à Paris, il choisit d'abord comme métier, lui aussi il va devenir boucher, il se fait embaucher, il gagne gentiment sa vie, à tel point d'ailleurs qu'il rachètera la boucherie, oui. Et autres. Et puis il fait venir son frère, il lui dit, écoute, viens, arrête, c'est bien, mais fais au moins un essai, tu verras si ça te plaît ou pas. Donc il arrive, il va initier son frère aussi à ce métier de boucher. Bon, peu importe, ça va durer pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'ils comprennent qu'il faudrait peut-être faire un petit peu autre chose pour percer davantage, parce qu'ils ont le sens des affaires aussi. Et ils vont décider de créer un premier restaurant dans l'esprit Bouillon, d'ailleurs. Il ne l'appelle pas encore Bouillon Chartier, ça sera le premier restaurant Chartier qui va naître rue Galande. Voilà. dont on parle beaucoup sur Radio Courtoisie, puisque il y avait la fameuse librairie jadis qui avait été d'ailleurs dirigée par une communauté religieuse, donc, bien sûr. Et qui existe toujours d'ailleurs. Pas la librairie, mais la communauté.
La communauté religieuse.
Et puis donc, rue Galande, vous allez avoir ce restaurant qui démarre et qui marche très bien, très fort. On a pas mal d'anecdotes autour grâce au voisinage, qui n'est pas toujours formidable, parce que c'est une rue qui était fréquentée plutôt par des femmes un peu légères, et puis et beaucoup, beaucoup de soucis à droite et à gauche. Mais le restaurant plaît, marche. Et ils se disent, on va quand même faire quelque chose de plus important. Et de fil en aiguille, ils vont arriver à se fixer non loin du Théâtre des Variétés, pour être même plus précis, juste à côté d'un musée qui marche terriblement, qui, depuis peu de temps, qui a été conçu d'ailleurs par un artiste aussi, qui s'appelle Grévin, avec le fameux musée Grévin qui démarre, qui attire beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Puis vous avez ces grands boulevards qui sont là.
Eh oui, les faubourgs et les grands boulevards.
Donc,
ça va être rue du Faubourg Montmartre,
rue
évidemment.
Rue du Faubourg Montmartre.
Vous connaissez bien.
Le succès, c'est énormément de gens viennent. Et alors, je vais vous donner un chiffre qui va, je pense, vous surprendre, puisque depuis 1896, c'est-à-dire date officielle de la création de ce restaurant, le Chartier aura servi 50 millions de repas. Aujourd'hui. Encore aujourd'hui, jusqu'à 2000 repas par jour.
Et donc, tout, 50 millions.
C'est
à peu près ce qui est estimé.
Le restaurant, je veux dire, qui a le mieux marché dans toute l'histoire de la restauration, peut-être en France même d'ailleurs. Donc ça marche très très fort. On les reconnaît parce que ils sont, les serveurs notamment, ils ont ce qu'on appelle le giron, c'est-à-dire ce petit gilet noir, vous savez, avec plusieurs poches, et puis leur, comment dirais-je, leur tablier de boucher aussi,
ouais.
Regarde ça.
Ouais.
Et puis, ils ont en général un air fort sympathique, ils vont très vite, on note les commandes à même la table, la nappe en papier, et puis les prix sont... sont prodigieux. Beaucoup d'anecdotes sont liées à cela, hein, puisque toutes les célébrités de l'époque allaient manger chez Chartier. Vous avez même cette fameuse chanson de 1937-38 par Fernandel, Félicie.
Félicie aussi.
Je l'emmène manger chez Chartier, etc. Je pris du homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Je ne vais pas vous chanter la chanson, je chante très très mal. Ce qui fait que
si, 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 justement, allez-y.
Alors, là, il faudrait quand même que je retourne un peu aux sources parce que. Ben non, voilà.
Le homard, poil aux pattes.
Pour séduire la petite chatte, c'était ça. J'emmène manger chez Chartier. Elle avait du poil aux pattes. Félicie aussi. Après,
Félicie
il avait
aussi.
Du poil,
oui.
C'est complètement délirant et fort ouais. Sympathique. Et donc, et puis, à tel point d'ailleurs que jusqu'à ces derniers temps, quand on téléphonait chez Chartier, on entendait cette musique, cette chanson passer. Donc, en musique de fond. Ah, vous avez une anecdote drôle aussi, c'est que à l'époque, un jeune désargenté qui s'appelait Germont d'ailleurs, qui était un jeune peintre. Il déjeune comme il peut quand même, et puis au moment de payer, il n'a pas d'argent, alors il demande que le directeur vienne. Le directeur regarde un peu ce jeune homme et dit: écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous payer, mais je suis peintre. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il dit: mais voyez, je regarde depuis là, j'ai juste en face de moi cette grande glace qui malheureusement en est de plus en plus piquée. Moi, ce que je vous propose, je vais vous faire un tableau dessus. Ça ne vous coûtera rien, si ce n'est que chaque fois que je viendrai pour travailler dessus, vous m'offrirez
le repas.
Un repas. Bon, alors le directeur, il y a les gens marchent comme ça.
Oui.
Et ce tableau est toujours exposé. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que comme Chartier est maintenant classé monument historique,
oui.
Donc l'œuvre de Germont est aussi classée monument historique.
C'est celui du Faubourg Montmartre.
Celui du Faubourg Montmartre. Ouais. Hein, donc ça représente un paysage avec, il y a même un aéronef qui passe au-dessus dans les nuages, etc. C'est très joliment dit. Bon, c'est pas du Renoir, mais c'est très sympathique, très symbolique d'ailleurs au niveau de l'anecdote.
Et alors l'auteur n'est pas passé à la postérité.
Non, pas du tout. Non, on a essayé de retrouver, mais non, malheureusement pas.
C'était pas Mucha. là.
Voilà, malheureusement. Et puis, bon, il y avait, bien sûr, il y avait toutes les vedettes, il y avait Colette, il y avait, comment dire, Jean Cocteau, enfin, tous les gens, là, on est au XXe siècle, bien sûr, toutes ces personnalités qui ont fréquenté le lieu. Et ça attirait, alors ça attirait beaucoup de jeunes, hein, des étudiants, des gens des argentés, des étudiants qui avaient souvent... peu d'argent, donc on leur faisait crédit, c'est-à-dire on attendait le chèque mensuel du paternel, parce que qui payait un peu les études du jeune qui était venu les faire à Paris. Donc à partir du moment où ils étaient en mesure de payer, ils réglaient l'arriéré, mais c'était jamais bien méchant. Enfin, il y avait une grande convivialité, effectivement, dans ce restaurant. Ça marchait très bien, et ça continue de bien marcher. Alors, de fil en aiguille, les Chartiers, malheureusement, ont disparu, et pour cause, eu égard à l'orage. Il y a eu des relais, mais il n'y a pas eu énormément de changements, puisque il n'y a eu que 3 ou 4 propriétaires différents. Et aujourd'hui, là, c'est géré donc par la famille Jouly, qui est une famille fort sympathique que je connais bien, puisque je travaillais avec eux dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage,
oui.
Notamment Christophe. Christophe qui dirige ses restaurants Chartier. Il y a également une vingtaine de grandes brasseries parisiennes qui dépendent de ce groupe.
Oui.
Et donc, il a repris l'âme, mais vraiment l'âme de 1896 des Chartiers. C'est-à-dire, c'est toujours la même ambiance. On y est très bien reçu. On y fait des repas actuellement autour de 8-10 euros, vous voyez.
Ah oui, c'est vraiment très...
Un plat, ça vaut 8 euros. Bon. Et puis, je crois, le bon côté aussi...
Il y a des entrées dès 2 euros, c'est ça ?
Oui, le fameux œuf mayonnaise à 2,50 euros, une choucroute sûrement autour de 8-9 euros. Donc, pour 10 euros, si vous ne buvez pas de vin, vous voyez, vous faites un très très bon repas. Ce qui concurrence d'ailleurs de plus en plus des chaînes pour lesquelles je n'ai pas une sympathie particulière, comme les McDonald's, et compagnie.
Ah oui.
Parce qu'au moins, nos jeunes là qui y vont, ils font la queue, certes. Parce qu'il
y a des jeunes qui y vont.
Il y a beaucoup de jeunes qui vont chez Chartier et ils redécouvrent des bons plats
non,
français.
Ce ne sont pas les jeunes qui vont chez les McDo, ce n'est pas les mêmes.
Non, mais ils changent aussi. Hein,
parce vous que, croyez ça.
Bien sûr. Alors, il n'y a pas que la famille Jouly, parce qu'il y a d'autres. Vous savez, je crois qu'actuellement en France, pour prendre le phénomène de bouillon sur un plan général, vous avez une création de bouillon chaque mois en France. Alors, vous avez d'autres familles, comme la famille Moussier, là, qui a créé à Montmartre les fameux comme bouillon Pigalle. Vous avez, je connaissais, parce qu'on y allait souvent, jadis, la brasserie Génie, place de la République,
oui.
Chez Génie. Bon, ça a été vendu, repris aussi, et c'est devenu un bouillon, un bouillon qui marche très bien. Il y a la queue un peu partout. Donc c'est une formule, je crois, qui fait floresse, et Dieu merci, j'espère que ça va continuer. On y est bien reçu, et c'est pas cher. Qu'est-ce que vous voulez demander de mieux, quand même et toujours avec le sourire, d'ailleurs. C'est pas toujours le cas dans certains restaurants.
Beaucoup de ces bouillons autres que Chartier ont fermé hein, rapidement... du fait entre autres de l'augmentation des prix de l'immobilier parisien à une époque, mais Chartier a tenu.
Oui, non, mais c'est-à-dire qu'aussi, il y avait un petit peu d'abus, en ce sens que certains restaurateurs ont compris qu'en mettant à l'aventure de leur affaire le mot bouillon, en le faisant figurer, les gens vont croire que c'est un peu les mêmes tarifs que chez Chartier, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Quand vous allez dans certains bouillons, ça vous coûte aussi cher que dans une brasserie traditionnelle. Donc ça offre moins d'intérêt quand même pour... surtout les jeunes. Ce sont les jeunes en fait qui viennent, parce que c'est les étudiants. C'est tout. Et puis aussi des gens un peu désargentés. Il n'y a pas un problème d'âge malheureusement aujourd'hui. Mais les gens y vont. Et je vous dis, dans l'ensemble, l'accueil est formidable. Montparnasse, je crois que c'est... Moi, personnellement, au niveau de la décoration, je préfère encore le bouillon Montparnasse, bouillon Chartier. C'est... formidable. Il y a une verrière extraordinaire aussi. C'est décoré par Trezel, par les plus grands artistes de l'Art Nouveau à l'époque. Et les Chartiers aimaient cet art, et ils l'ont cultivé, ils l'ont vraiment développé, et on le retrouve dans leur restaurant. D'où le succès. Là, vous êtes vraiment dans un cadre, j'allais dire, de palace, un cadre d'un 4 étoiles. Vous asseyez, et puis, quand vous y arrivez, l'addition à 10 euros, même une bouteille de vin, je sais pas, bouchée, ça arrive sur la table à 10 euros, les premiers prix. Ou dans le moindre restaurant, c'est facilement multiplié par 2 ou par 3.
C'est ça.
Donc, quelque part, tout converge vers le succès qui perdure bien maintenant. Et les chartiers, les Jouly ont même créé un nouveau chartier qui est devant la gare, comment dirais-je, de l'Est.
Oui.
Et qui est également, bon, qui est plutôt dans le style là, des années 50 à peu près, comme décoration,
oui.
Même un petit peu avant. Et qui a un succès vraiment mérité aussi. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'avant d'être le Bouillon Chartier, bon, c'était le groupe Jouly, qui avait aussi la chaîne Batifol. Et avant d'être un Batifol, le lieu s'est appelé aussi, c'était la brasserie strasbourgeoise.
Oui.
Donc, aujourd'hui, c'est un chartier, mais avant, bien avant, vers 1906-1908, c'était déjà un Bouillon Chartier.
C'était déjà un Bouillon Chartier.
Parce que Chartier, en fait, il n'y a eu que 7 ou 8 restaurants Chartier. Mais il y en a eu peut-être une quarantaine en réalité, parce que tout était franchisé. Par exemple, l'un des restaurants, et je surprends beaucoup les personnes quand j'en parle de celui-là, était loin d'imaginer qu'il ait été chartier entre 1900 et 1956, puisque c'est le plus vieux café de Paris, c'est le Procope. Le Procope a été un Bouillon Chartier à cette époque-là, et ça, on a du mal à l'imaginer. C'est-à-dire que faut dire que ce restaurant a connu bien des déboires après la Révolution, notamment. C'était plus, comment dirais-je, Procope, hein, François Procope qui dirigeait cela, mais au contraire, c'était Zoppi, un autre restaurateur. Et ensuite, il y a la baronne Thénard aussi qui avait repris ça. Et de fil en aiguille, ça a complètement... Je crois que la date, d'ailleurs, la chute réelle est officialisée par le décès d'un de nos plus grands poètes, Paul Verlaine. Je crois que ça doit être, si mes souvenirs sont bons, 1896. Mmh. Et c'est la fin, vraiment, du Procope. À cette époque-là. Bon. Donc, mais pour relancer le Procope, ben c'est devenu un chartier. Et en 1956-57, ça va redevenir le Procope d'antan. Mmh. Et il est vrai que entre 1900 et 1956, tout le côté littéraire, tout le côté, j'allais dire, que l'on apprécie de nouveau aujourd'hui, avait disparu. J'ai eu l'occasion, avec Stéphane Bern, il y a quelques années, de faire une émission justement consacrée à l'histoire du Procope. Bon, ils imaginaient une petite table, le tiers de celle à laquelle nous nous trouvons actuellement. Vous aviez Diderot et d'Alembert qui se disaient, si on faisait une encyclopédie, ouais, ça démarrait comme ça. Et Voltaire aussi, je raconte souvent l'anecdote, qui était très jaloux parce qu'il gagnait très peu d'argent avec ses droits d'auteur, qui voyait Buffon, qui lui en gagnait beaucoup avec son histoire naturelle. Qui disait, ah, monsieur Buffon, c'est vrai que vous en gagnez de l'argent avec vos coquilles, rajoutait-il méchamment. Bon, en fait, c'est là où il y avait Marat, où il y avait Robespierre, où il y avait Bonaparte qui demandait à Robespierre le dernier journal qu'il tenait dans les mains pour reconnaître les dernières nouvelles. On ne peut pas imaginer tout ça, parce que c'est la même génération, tout ça. Puis maintenant, avec le recul du temps, quand on sait ce qu'ils ont fait les uns et les autres.
Oui.
c'est devenu, donc, après, avec le grand tournant du début du XXe siècle, un Bouillon Chartier.
Comment est-ce que vous expliquez on va parler maintenant un peu de l'époque actuelle, la résurgence de la mode de ces bouillons chartiers. Si je voulais être pessimiste, voire nourrir la négativité, je dirais, mais est-ce que c'est pas... vous nous avez expliqué qu'à l'origine, les bouillons chartiers, c'était des bouillons pour les ouvriers, pour des gens qui avaient très peu de moyens et qui étaient des ouvriers à l'époque de la reconstruction ou de la refondation, de la restructuration plutôt parisienne avec le baron Haussmann. Est-ce que c'est un signe d'appauvrissement général de la population parisienne que de retrouver justement ces primodiques, le fait d'attendre et de faire la queue sur le trottoir, de manger certes des plats, mais des plats les plus basiques et parce que vous le traitez un peu comme un folklore culturel aujourd'hui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une variable sociologique d'appauvrissement de la population parisienne?
Bien sûr. Mais vous savez, mettez-vous à la place d'une famille. avec d'ailleurs deux enfants, par exemple. Bon, ils veulent sortir le soir. Nous sommes le samedi, le père, ils ont décidé d'aller au spectacle, etc. Ils veulent dîner. Bah, quatre personnes dans un restaurant, vous avez 120 euros, peut-être même plus, sans encore dépasser les 2-3 plats, etc. Mm-hmm. Vous allez chez Chartier, vous en sortez à peine pour 50 euros. Donc c'est ça le fond du problème. Et ça aussi, c'est lié à ce nouveau paupérisme un petit peu qui se développe partout, c'est vrai. On a beaucoup moins de moyens qu'avant. Tiens, vous avez une infime minorité de personnes qui, elles, gagnent de plus en plus d'argent, on le sait bien, mais elle est très minée. On a assisté quand même ces dernières années en France, chez nous, à une forme de disparition de la classe moyenne.
Alors oui.
Donc ça correspond tout à fait.
Aujourd'hui, c'est censé être la restauration de la classe ouvrière.
Voilà.
Alors, maintenant, vous dites, mais c'est la classe moyenne qu'on y trouve.
On y trouve maintenant la classe moyenne. Mais en revanche, peut-être le succès aussi tient aussi du fait que le cadre est très agréable aussi. C'est qu'on est dans un petit palace.
Alors, c'est très bruyant. Il faut faire la queue sur le trottoir.
Voilà.
C'est basique comme cuisine. Et bon, oui, certes, mais quand même.
Oh ben c'est normal. Il y a quand même quelques inconvénients. Voilà.
les inconvénients...
Ça dépend encore, vous savez.
Du Paris populaire.
Je vais vous dire...
Le Paris populaire. Parce qu'on a... Oui. Parce que la nouvelle France de Mélenchon appelle la France populaire. Ça, c'est... c'est pas la France populaire. Non. L'ancienne.
Non, mais vous savez, ça donne cette impression, mais je suis allé assez souvent à celui de Montparnasse, il y a la queue, on fait la queue, mais c'est très bien réglé, c'est jamais trop long. En réalité, vous attendez jamais très très longtemps.
D'accord.
Parce que ça
oui, vous y allez, vous y resterez de temps en temps.
Ah, de temps en temps, oui, et à chaque fois...
Et vous êtes plats... inspiré pour l'écrire, d'ailleurs.
Oui, mais ben c'est la raison pour laquelle je m'y suis rendu assez souvent quand je travaillais sur ce texte-là, pour m'imprégner un peu, si vous voulez, de cette ambiance, voir comment ça se passait. Des gens que vous ne connaissez pas, qui viennent vous servir, toujours avec le sourire, ouais, c'est ça. On sent qu'il y a le respect de la clientèle, la famille Jouly aussi qui a mis ça en exergue d'ailleurs, respecter le personnel, respecter les clients. Un restaurant, ça tourne uniquement sur ces notions-là. Si vous êtes dans certains endroits, vous êtes mal reçu, vous mangez mal, et puis la note est plutôt salée. Donc, et puis les gens se plaignent parce que le chiffre d'affaires baisse. Mais enfin, il n'y a pas de secret. Si vous prenez ça complètement à l'inverse. Mais en général, vous savez, ce sont la famille Jouly, pas caché, ce sont des Aveyronnais, voilà, d'origine,
comme beaucoup
de familles, comment dirais-je,
de brasseries parisiennes.
Qui gèrent les brasseries à Paris. Et même c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas que les Aveyronnais, Montparnasse, c'est plutôt les Bretons. Puis à Montmartre, c'est une formidable famille Frachebout, qui est d'origine savoyarde. Comme d'ailleurs, quand vous sortez de la gare Saint-Lazare, vous avez cette fantastique brasserie Mollard.
Oui.
Il faut y entrer, c'est un musée.
Oui, oui, oui.
Vous avez des faïences de Sarreguemines qui sont extraordinaires. Tout est beau. Il faut demander simplement l'autorisation de faire le tour
de la
salle.
C'est pas les prix des bouillons Chartier. Hein.
C'est pas les prix, non, mais juste pour la curiosité, pour voir la beauté du lieu. Mmh. On n'est plus du temps de monsieur et madame Mollard qui ont débuté dans le hall de l'immeuble d'à côté.
Non.
Sur une petite table avec deux verres et une bouteille de vin où on prenait surtout les commandes là, du charbon à livrer. Monsieur Mollard à dos d'homme portait cela donc,
dans le troisième ou cinquième étage. Je dans l'histoire insolite des cafés parisiens que vous en parlez ou dans la bonne franquette.
J'en parle, je pense, dans l'histoire insolite des cafés parisiens. Oui. Ben oui, parce que c'est très symptomatique d'ailleurs. On voit vraiment comment cette grande aventure a commencé. C'est pas sans raison que ces lieux ont eu du succès, se sont développés. D'abord, c'est lié aussi à la pauvreté. Vous avez raison, vous savez, au XVIIIe siècle, on voulait recevoir des amis. On avait peu de moyens, bien souvent. Donc, on cherchait un lieu pour s'y rendre, pour les recevoir. D'où le succès de café dont j'ai parlé.
Il y a un mot qui revient, en plus, quant à ce que l'on y mangeait, le fameux mot de brouet.
Le brouet, bien sûr, vous savez, ça rejoint, vous savez, comment dirais-je, ce succès, qui est, vous savez, cette fable de La Fontaine, notamment. Je vais vous en lire deux, trois vers.
Allez-y.
Que tout le monde connaît, bien sûr, puisque c'est le renard et la cigogne. Vous avez cette facétie moqueuse, donc jouée à Commère la cigogne par Compère le renard. Quand il, à La Fontaine, raconte ça de la manière suivante. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut la paix, le tout en un moment. Voilà. Après, il y a eu la revanche. Hein, voilà. Mais vous voyez, le succès, tout le monde parlait du brouet. Il y a le brouet de l'espousé aussi. C'est-à-dire, c'était les termes, donc là, on est au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on servait au lendemain des noces, de la nuit de noces, à la mariée, la jeune mariée, un brouet. C'était très symbolique, tout ça.
D'accord.
Voilà. Et donc... Et ça revenait, donc je vous parlais de l'époque médiévale tout à l'heure. C'est lié au fait que les gens avaient très peu de moyens. On trouvait quand même un morceau de viande, on trouvait des légumes et on faisait bouillir ça à la cheminée, près de la cheminée, pendant des heures. Le brouet devenait noir d'ailleurs à force de cuire et de recuire. Et on rajoutait de l'eau. Donc ça permettait pendant des fois un jour, deux jours, trois jours de pouvoir se sustenter, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça un peu le... En fait, ça correspond simplement à un besoin que les gens ont toujours eu de se rassembler, de déjeuner, de dîner, donc comme il est plutôt dans le temps, jadis, et puis d'échanger, parce que ce sont des lieux merveilleux. Vous rentrez dans un café, vous connaissez personne. Vous retrouvez aux Ingles, entre deux gars qui racontent n'importe quoi, et puis soudainement, ça va devenir vos deux meilleurs amis pendant 3 minutes. Vous ressentez du restaurant, vous ne les reverrez plus jamais de votre vie. Mais ça, c'est miraculeux, quelque part. Voilà, c'est pour ça que des auteurs comme Michel Audiard, que j'ai cité aussi en début d'émission, s'asseyaient, prenaient des notes, et puis c'était ces dialogues de film, en fait, qui s'étaient traduits dans ces dialogues de film.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, Gérard, cette émission s'achève de Florilège des Arts sur, justement, les lames de ces bouillons parisiens, les bouillons Chartier. Je vous retrouve, chers auditeurs, demain à partir de 9h pour le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Nous reviendrons sur la visite de Donald Trump en Chine, chez son ami, grand ami, pour un formidable deal. Et là, j'ai le droit de le dire parce que je me moque de Donald Trump avec Xi Jinping, donc dans le Libre Journal de Géopolitique Profonde à partir de 9h demain.
J'espère que ça ne sera pas son bouillon de 11h. Oui.
Non, mais il est en train de prendre le bouillon, comme on dit, le Donald, dans le détroit d'Ormuz. Hein.
Ah, dans le détroit d'Ormuz, oui, peut-être.
Mais, voilà. Je crois aussi. Allez, c'est fini cette émission.
Merci de m'avoir reçu, Nicolas.
Eh ben, merci d'être venu encore une fois, Gérard. À très bientôt, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonne journée à vous.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 15 mai 2026 de 10h à 11h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.